RCF.
Alexandre Masson, je rappelle que vous faites partie de l'équipe du centre spirituel du Châtelard, près de Lyon. C'est un éco-centre jésuite, dans lequel on en reparlera. Vous expérimentez tout un tas de choses qui peuvent permettre de vivre un peu plus sobrement. C'est d'ailleurs le thème de ces entretiens dans cette série Halte spirituelle. Vous avez parlé dans notre premier entretien. Vous avez employé cette expression « une vie bonne ». Qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne dans le cadre de ce qui nous occupe là, d'un souci de sobriété, d'une vie simplifiée ?
C'est une grande question. C'est une quête ancienne, y compris chez les philosophes grecs, par exemple. Ce qui met en route Platon, ce qui met en route Aristote, c'est cette recherche d'une vie bonne, enfin en tout cas du « qu'est-ce que c'est le bon ?». On pourrait dire l'éthique chrétienne, elle hérite aussi de cette philosophie. Et par exemple, vous ouvrez la somme théologique de Thomas d'Aquin, la deuxième partie morale sur qu'est-ce que c'est que la béatitude, quoi. Et donc, on relie cette question du bien ou d'une vie bonne à une vie avec le Christ, une vie en Dieu.
Et alors, on se situe d'un point de vue théologique et philosophique. Est-ce que il y a une mise en application de ces réflexions de façon très concrète, dans nos vies quotidiennes? Est-ce que ça peut se transcrire, se transposer, s'appliquer?
Pour moi, une vie bonne, c'est une vie... en tout cas, c'est pas simplement des critères extérieurs. Respecter la loi, pas respecter la loi, correspondre à telle image que je me suis fait de ce qu'était le bien ou le mal, etc. Mais c'est me laisser instruire aussi intérieurement, au contact des Écritures, au contact de la personne du Christ, à l'écoute aussi de ce que a à me dire l'Église du Christ. C'est me laisser instruire intérieurement sur cette manière d'incarner cette sobriété heureuse, par exemple, dont parle le pape François dans Laudato Si. Donc je dirais, une vie bonne, c'est délicat, et parce qu'on voit bien que, c'est pour ça que j'ai du mal à répondre aussi, c'est qu'en fait, la représentation de ce que c'est qu'une vie bonne, elle évolue pas mal en fonction des époques.
Et de ce qu'on est et de qui on est.
En plus. Et du coup... Voilà, quelque chose comme la crise écologique, ça vient justement précisément percuter ce qu'on imaginait être une vie bonne ou quelque chose de désirable. La crise des migrants, ça vient percuter ce qu'on imaginait qu'était un modèle désirable de société, mais qu'on n'est pas capable d'assurer pour tous et qu'on assure aux dépens d'autres. Donc c'est ça qui n'est pas évident.
En tout cas, c'est pas une vie au cours de laquelle on accumule.
En tout cas, ça, c'est sûr.
Les signes extérieurs de richesse, par exemple, ne sont pas forcément les signes d'une vie bonne?
Je pense pas, ouais. Moi, je dirais, par exemple, pour moi, l'enjeu de la relation. Pour moi, une vie bonne, c'est une vie relationnellement riche. Que ce soit la relation à Dieu, la relation à soi, à son histoire, à son corps, relation aux autres, relation à la création. Moi, ce qui me donne de la joie de vivre, ce qui me met en route, qui me donne de l'enthousiasme, de l'élan, c'est une vie... de surprises, de rencontres inattendues, de découvertes de choses que j'aurais pas imaginé vivre ou faire. Mais aussi une vie, du coup, de disponibilité à ces rencontres, et ça, c'est là qu'il y a peut-être un travail, une responsabilité. Se rendre disponible à ce qui est donné.
Est-ce que le fait de répondre à tous nos désirs, par exemple, pourrait aussi nous permettre d'être heureux? Je parle plus de vie bonne, mais de ressentir un bonheur. On a envie de quelque chose, on a la possibilité ou les moyens matériels, financiers, psychologiques, j'en sais rien moi, d'y répondre, faisons-le.
Je dirais une distinction artificielle, mais qui je trouve quand même à sa valeur, c'est la distinction entre besoin et désir. Parfois on a besoin ou envie de telle chose ou de telle autre, on peut dire c'est passager. Une fois que c'est comblé, une fois que j'ai satisfait ce besoin,
assouvi
ce besoin, il disparaît, quoi. Et puis, à l'inverse, par ailleurs, il y a le désir, quoi. Et on peut dire, là, il y a un dynamisme plus profond, quelque chose de plus entier qui me met en route, qui est jamais complètement assouvi, qui se renouvelle, et qui passe aussi parfois par un renoncement à combler un certain nombre de besoins, quoi. Se dire, en fait, je suis pas réduit à mes besoins. Et en fait, ce dynamisme du désir, j'y serais peut-être d'autant plus attentif que je mets un petit peu en sourdine certains besoins immédiats pour retrouver quelque chose d'essentiel, quelque chose qui me met en chemin.
Alexandre Masson, dans les vies qu'on mène, il faut aussi faire avec des représentations, des codes sociaux. Accepter de rouler dans une voiture déglinguée, il faut l'assumer, quoi, quand d'autres ont des voitures rutilantes. Enfin, je prends cet exemple totalement au hasard. Mais ça demande un certain courage, d'après vous, la sobriété, le renoncement à des choses matérielles qui peuvent nous situer aussi vis-à-vis des autres d'un point de vue social.
Je dirais oui, ça demande du courage, parce que dès qu'on fait un choix un peu singulier, il faut l'assumer vis-à-vis d'autrui. Et donc là, oui, il y a du courage. Après, je dirais aussi que je pense qu'il y a de la joie. Voilà, moi, les gens que je connais, qui se sont engagés sur un chemin de sobriété par conviction écologique, aussi enracinés dans leur foi chrétienne. Je dirais que c'est plutôt des gens qui vont bien, enfin en tout cas qui ont du goût au nouveau mode de vie auquel ils cherchent à adhérer. Donc il y a une dimension de renoncement, il y a quelque chose d'onéreux, et en même temps, on voit bien, enfin en tout cas je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui cherchent à revenir en arrière après, quoi.
Mais est-ce que le choix de la sobriété, ça n'est pas un peu un luxe ? Est-ce qu'on ne choisit pas la sobriété, justement, quand on va déjà bien, quand on peut se le permettre ?
C'est possible. Après, je pense aussi que la question de la sobriété, elle se pose différemment en fonction... Alors, il n'y a pas que ça, hein, mais si on prend, par exemple, la porte d'entrée sociale, si le contexte de la sobriété dont on parle, c'est la question aussi écologique, de la crise écologique, les responsabilités dans la crise ne sont pas du tout les mêmes. Et en fait, parfois, on dit l'écologie, c'est un truc de riche. Oui, mais en fait, en même temps, c'est essentiellement les plus riches qui, de fait, ont des comportements ou des modes de vie
qui aggravent la crise.
On peut dire ça, voilà. On peut dire les responsabilités...
Et c'est ce que souligne le pape François dans la date.
Exactement.
Aussi. Ce sont les pauvres, les pays pauvres et puis les populations les plus défavorisées qui sont les plus grandes victimes du réchauffement climatique.
Et puis qui, en fait, parfois on dit, le problème, par exemple, il utilise... il dit, en fait, le problème, ça n'est pas les pauvres. Alors parfois, on pourrait se dire, finalement, par exemple, la question démographique, qui par ailleurs peut en être une, mais il dit, mais en fait, c'est pas du tout... Aujourd'hui, quand on regarde, si on prend par exemple le critère des émissions carbone, c'est plutôt des pays à faible démographie, mais riches et très pollueurs, qui émettent le plus par rapport à des pays pauvres, où il y a effectivement une démographie beaucoup plus dynamique, mais qui en fait ne sont pas principalement concernés du côté des émissions en tout cas, parce que les émissions moyennes de ces pays-là sont très basses et parfois en dessous même de la cible qu'il faudrait atteindre pour limiter le réchauffement climatique. Donc c'est...
En tout cas, on peut s'interroger, nous, sur notre responsabilité de manière individuelle. Une fois sans sombrer dans la culpabilité et mortifère, mais sur des choix de sobriété qu'on pourrait poser, en particulier pendant ce carême, des options à prendre.
Ça, c'est sûr. Enfin, je pense qu'une grande partie des efforts qui doivent être fournis pour trouver une trajectoire respectueuse de la création du vivant humain comme autre qu'humain, elle est dans les mains des pays les plus riches et dans les pays les plus riches des personnes qui ont un niveau de vie plutôt correct ou supérieur. Alors après, ça n'empêche pas de se poser chacun la question dans sa vie, quel que soit son niveau de vie, où est-ce que c'est les lieux où j'ai à me convertir ? Enfin, je veux dire, la conversion, c'est pas seulement pour les riches, mais quand même. Il y a quand même à entendre une option préférentielle pour les pauvres du Christ. rappeler, enfin, qui est un des principes forts de la doctrine sociale de l'Église, et que parfois on a du mal à entendre, parce que ça peut être dérangeant, voilà, ou incompréhensible. Une autre chose que je trouve intéressante dans la question que vous me posiez, c'est est-ce que la sobriété a un coût ? C'est vrai que parfois, un certain nombre de modes de vie, je pense aux questions d'alimentation, bah on peut manger des produits de meilleure qualité, locaux, bio, bah ça a un prix. Donc est-ce que, de fait, ça exclut un certain nombre de personnes qui n'ont pas les moyens d'accéder à ce type de produits ? Bah, c'est une bonne question, voilà, je ne sais pas. Pour vous donner un exemple, au Châtelard, on travaille sur la transformation de notre système de restauration. Et on essaie que ça soit iso-coût, quoi. On essaie alors ça implique aussi de changer un peu les compositions des menus. Par exemple, manger un peu moins de viande. Ça tombe bien parce que c'est très émetteur en carbone. Mais voilà, normalement, le but, c'est que ça coûte le même prix avant qu'après. Et de croire que, bah, certes, il y a certains produits qui sont plus chers. Mais en même temps, comme on ne mange pas tout à fait la même chose et pas forcément dans les mêmes quantités, normalement, d'un point de vue financier, ça s'équilibre.
On en parle demain. Merci beaucoup.